en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Éminent paléontologue, il ne compte pas en siècle ou en millénaire, mais en millions d'années. Il s'intéresse aux origines de l'homme, à son évolution intimement liée au climat, à son environnement. Médiatiquement parlant, il est connu du grand public pour avoir collaboré à plusieurs documentaires tels que L'Odyssée de l'espèce ou Homo sapiens, des films qui ont rencontré un grand succès en France et à l'étranger. Il est également connu pour avoir découvert avec deux autres collaborateurs la fameuse Lucie Australopithèque, donc découverte en Éthiopie en 1974. Enfin, il a publié plus de 400 travaux scientifiques sur la paléontologie humaine, les vertébrés, la préhistoire et l'archéologie. Canal Académie a l'honneur de recevoir aujourd'hui le professeur Yves Coppens. Yves Coppens, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je sais que vous avez un emploi du temps chargé, et cela même si vous êtes honoraire depuis cette année de la chaire de paléoanthropologie au Collège de France. Alors au cours de cette émission, nous évoquerons des thèmes, les thèmes de votre vie, des moments que vous souhaitez nous faire partager. De votre père physicien à vos premières expéditions, en passant par votre entrée à l'Académie des sciences en 1985, puisque je le précise, vous êtes membre de l'Académie des sciences dans la section sciences de l'univers depuis une vingtaine d'années. Donc tous ces thèmes, nous allons pouvoir les évoquer, nous allons donc remonter le temps avec vous. Et pour commencer, arrêtons-nous sur votre enfance dans le Morbihan. Votre père était alors universitaire, physicien plus exactement, et votre mère pianiste. Et dès le départ, vous suivez les traces de votre père et vous vous intéressez à la science. Yves Coppens.
Oui, eh bien, j'étais dans le Morbihan en effet, et mon père était professeur de secondaire à l'époque. Il était professeur de secondaire au point que je l'ai eu en physique-chimie. Ça s'appelait comme ça, en seconde, première et maths, ce qui n'est pas toujours facile d'avoir son papa trois années comme cela, parce que quand ça marche bien, ça marche partout. Quand ça marche pas bien, ça ne marche pas à l'école, et puis ça ne marche plus à la maison non plus. Et ce papa faisait une thèse avec Irène Joliot-Curie sur la radioactivité. Et cette thèse l'a menée en fait à l'enseignement universitaire où il a eu d'abord, à l'époque ça s'appelait maîtrise de conférences et puis professorat à Nancy. Et il est devenu professeur à Nancy où il a mené une carrière d'universitaire tout à fait normale jusqu'à une retraite. Et il est mort en 96 aussi là-bas à Nancy. Donc j'avais devant moi un père scientifique. Et comme vous savez, un petit garçon a envie de faire des choses différentes de son père. Comme mon père était physicien, enfin je ne sais pas si c'est vraiment comme ça, mais comme mon père faisait de la physique, il se trouve que je ne me suis pas intéressé à la physique, mais que je me suis intéressé à quelque chose de très différent. L'archéologie, la préhistoire, la paléontologie.
Ce que vous appelez la science du passé.
Oui, tout ce qui était reconstitution du passé en fait. Avec tout l'imaginaire que ça comporte aussi. L'imaginaire qu'alimentait sans doute un peu ma mère, qui était plus artiste. Et en même temps, en fait, je suis bien tombé dans le chaudron parce que mon père était scientifique et finalement j'étais scientifique moi-même et j'avais envie véritablement de faire une carrière de scientifique, une carrière
de faire de la recherche.
Oui, une carrière de savant. Vous savez ce que ça peut représenter dans la tête d'un petit garçon. Et comme mon père publiait très volontiers à l'Académie des sciences, sous la forme de ces fameuses notes avec un N majuscule, dans les comptes rendus hebdomadaires des sciences de l'Académie des sciences, j'étais fasciné par ces publications et un de mes rêves d'enfance, c'était de publier moi-même à l'Académie des sciences et bien sûr, rêve magistral et ultime, d'entrer un jour à l'Académie des sciences.
Et c'est ce qui est arrivé finalement au fil des années.
Oui,
c'est un joli parcours.
C'est ce qui est arrivé au fil des années et ça a été mon grand bonheur puisque j'étais correspondant en 83 et membre en 85.
Oui. Alors, on va revenir à votre père, René Coppens, qui à l'époque était quand même connu. Là, peut-être un peu moins, mais en même temps, c'est vrai que la physique et la radioactivité touchent peut-être moins le grand public que la préhistoire. Et alors, quand vous êtes adolescent, vous l'aidez à écrire ses notes.
Oui, on sait beaucoup dire. Non, je n'aurais pas cette prétention. Mais il se trouve que je m'intéressais aussi, bien sûr, à ces problèmes et à la manière dont il parvenait parfois à les résoudre. Il recherchait de la radioactivité donc dans un certain nombre de roches. Et pour cela, il faisait des plaques minces qu'il regardait sans cesse sous le microscope. Moi, j'ai connu essentiellement mon père, l'œil sur le microscope. Et sachant qu'il y avait une certaine radioactivité dans les phosphates, et me trouvant un jour dans la Meuse, dans une carrière de phosphates, représentée par ce que l'on appelait des coquins, avouez que c'est mignon, et, c'est-à-dire des espèces de petits nodules de phosphates, j'avais fait une collection de ces nodules que je lui avais rapportés, et il avait mesuré la radioactivité de ces nodules, et il m'a associé pour la première fois de mon existence à une de ces fameuses notes à l'Académie des sciences, publié en 1956, donc je n'étais pas peu fier d'être co-auteur d'une note dans laquelle je n'avais absolument rien fait, sauf de collecter les nodules en question pour l'étude de leur teneur en radioactivité.
Alors justement, donc votre nom apparaît pour la première fois à l'Académie en 1956, vous êtes alors très jeune, vous avez une vingtaine d'années.
Oui, j'avais probablement 21 ans et peu de temps après 22. Et c'est à ce moment-là, c'est cette année-là que je suis entré au CNRS. C'est ça, au CNRS.
Oui. Là aussi, donc entrer à 22 ans au CNRS, ce n'est pas non plus, ce n'est pas commun, on va dire. Fait une carrière brillante déjà à l'université.
Ce n'est pas commun aujourd'hui, hein, mais c'était plus simple. Il faut dire ce qu'il y a tout de même. C'était plus simple à l'époque. Je veux dire que. À l'époque, le CNRS recrutait, cherchait même des gens pour alimenter ses laboratoires, si bien que, intéressé par la paléontologie, j'avais fait un petit tour des grands patrons de Paris, et Jean Pifetot, professeur de paléontologie à la Sorbonne, m'avait donc proposé, au vu de mes articles, parce que je publiais de toutes petites choses d'archéologie dans des revues locales et départementales, mais qui avaient suffi probablement à montrer que la recherche était véritablement ma passion. Et donc, Jean Pifetot m'a proposé de me recruter dans son laboratoire à la Sorbonne. Et ça a été ma première affectation. Je suis entré en octobre 1956 comme chercheur au Centre national de la recherche scientifique dans son laboratoire de paléontologie qui s'appelait Paléontologie des vertébrés et paléontologie humaine à la Sorbonne. Au 54 de la rue Saint-Jacques, au 54 de la rue Saint-Jacques.
Alors, la paléontologie, c'est très large. À quel domaine vous vous intéressiez à ce moment-là? Vous avez déjà un angle bien précis?
Oui, c'est-à-dire que mon intérêt se portait sur la paléontologie humaine. J'étais surtout, et je le suis toujours, très intéressé par les hommes, par les humains, ou les préhumains, mais c'est la même chose, et puis leur production, c'est-à-dire la préhistoire. Et Jean Pifetot m'avait dit avec beaucoup de précaution, parce que c'était un homme d'une grande courtoisie, même avec ses étudiants, que la paléontologie humaine c'était bien, mais qu'il fallait avoir des fossiles humains originaux, et qu'en général ceux qui les détenaient n'étaient pas très disposés à les prêter, donc il valait peut-être mieux que je commence par l'étude de certains animaux. Et il m'avait proposé, ce qui est intéressant sur le plan psychanalytique, mon choix est intéressant sur le plan psychanalytique, il m'avait proposé de travailler ou sur les rongeurs, vous voyez les toutes petites bêtes,
oui,
ou sur les proboscidiens, c'est-à-dire les éléphants et leurs cousins, c'est-à-dire de très grosses bêtes, en m'expliquant que les uns et les autres étaient très chronologiquement significatifs, c'est-à-dire que les rongeurs et les éléphants évoluaient vite, et comme c'était des bêtes qui évoluaient vite, leur découverte permettait de dater rapidement la couche d'où ils provenaient. Et j'ai choisi les éléphants. Voilà, j'ai choisi les gros animaux. C'est ça qui doit être intéressant sur le plan
psychanalytique.
Ouais, c'est la psychanalyse. Et je me suis passionné pour ces bêtes et je les ai fréquentées tout le long de mon existence autant qu'il était possible, tout en n'oubliant pas les hommes, les humains, les préhumains.
Mais c'est un outil, donc, comme vous le dites, pour pouvoir dater.
Ah, c'est formidable, c'est formidable. Vous avez un bout de dent d'éléphant fossile, même un chicot, un morceau de dent, ça suffit pour très rapidement donner une fourchette d'âge, quoi. Alors la fourchette est quelquefois à 1 million d'années près, mais ça permet quand même de se situer très très vite dans le temps, et c'est quand même très précieux.
Alors, on va continuer. Vous commencez vos premières expéditions un peu plus tard. Vous partez où en premier? Et est-ce que vous partez seul?
Je suis parti d'abord en 1960, en janvier 60, au Tchad. Et je suis parti au Tchad parce que j'avais étudié à Paris des collections qui avaient été, enfin des collections, quelques ossements de vertébrés fossiles qui avaient été recueillis par des géologues. Et donc, je suis allé rejoindre ces géologues. Et finalement, j'ai travaillé au Tchad entre janvier 60 et décembre 66, c'est-à-dire sept ans. Et ça m'a permis de trouver des quantités de restes d'animaux, des périodes en gros tertiaire et quaternaire, c'est-à-dire...
Oui, vous ramassez des dizaines de tonnes d'ossements, de fossiles.
Oui, des tonnes et des tonnes. Et parmi ce tonnage, quand même, un crâne, mon premier crâne d'homme fossile original, que j'ai appelé tout à fait bêtement Tchadanthropus, c'est-à-dire l'homme du Tchad, c'est pas très malin, oui, et qui reste une pièce fort importante parce que entre l'Afrique de l'Est qui a été très féconde et l'Afrique du Nord qui l'a été aussi, cette Afrique centrale ne l'était pas, ne l'avait pas été avant que je n'y vienne, et puis avant ensuite que Michel Brunet, cet an dernier, y découvre Abel et Toumaï.
Oui, on va y venir un peu plus tard. Mm-hmm. Mais alors, pour revenir donc à cette première expédition au Tchad, donc vous dites que vous ramassez des tonnes d'ossements, mais où se trouvent-ils à ce moment-là, ces ossements? Personne n'a eu l'idée d'aller les chercher?
Oui, le nord du Tchad, c'est une région désertique. Et personne, en effet, n'avait eu l'idée d'aller les chercher, même si quelques géologues avaient signalé ici et là...
Ils en avaient connaissance.
Enfin, de certains sites, quelquefois plus récents, mais ça n'avait pas été véritablement fouillé, exploité et véritablement découvert. Et c'est la découverte de quelques pièces par ces géologues qui a fait que, à partir de 1960, l'affaire s'est déclenchée et le nord du Tchad est devenu un vrai grand site.
Vivier.
Oui, c'est ça, un vrai grand vivier pour toute la communauté scientifique internationale. Et s'il y a eu une rupture, s'il y a eu un arrêt entre 1966 et puis les débuts de Brunet au Tchad, c'est-à-dire 1994, c'est parce que ce n'était pas des régions très fréquentables du point de vue politique. Il y avait des problèmes entre populations.
La stabilité politique,
et...
oui.
C'est ça, mm-hmm. Absolument.
Alors, vous partez également en Algérie, en Tunisie, en Mauritanie, en Indonésie, aux Philippines. À chaque fois, dans ces différents pays, vous y trouvez des ossements différents ou alors, au contraire, vous retrouvez la même chose?
Non, des ossements différents, bien sûr. Je suis allé... Oh oui, c'est très varié. Je suis allé en Mauritanie parce qu'on avait trouvé des restes d'animaux fossiles et puis aussi des traces, des empreintes de pas d'animaux, de grosses bêtes. À tout près des grandes mines de fer de Mauritanie, dans un coin un peu difficile. Hein. J'y suis allé au moment de la guerre avec le Polisario, et j'étais quand même, ma petite Toyota, mon petit 4x4, était encadré par 4 automitrailleuses. Enfin, je ne sais pas si vous voyez,
effectivement.
C'était des conditions de prospection un peu particulières, bien sûr. On est soumis.
Mais vous vouliez quand même aller sur le terrain.
Ah oui, je n'ai pas eu de problème, sauf que à un moment donné, une des automitrailleuses m'a foncé dessus en m'empêchant d'aller plus loin parce que j'allais vers un champ de mine et peut-être que je ne serais plus ici si j'avais continué pour vous parler aujourd'hui. Alors en Algérie, je suis allé fouiller avec un vieux patron qui s'appelait Camille Arambourg. Camille Arambourg avait plus de 80 ans et il m'avait pris pour héritier. Il n'avait pas d'élèves jusque-là et c'était à l'époque où les chercheurs travaillaient volontiers seuls.
Oui.
Il n'avait pas pensé former des gens, c'est ça. Mais il a été très séduit par le fait que je m'intéresse à l'Afrique, que j'y aille, que j'y retourne. Parce que quelquefois, on va faire une première mission et puis...
On ne revient pas forcément.
Les conditions de confort, de climat, de je ne sais quoi, ne sont pas idéales pour les gens qui y vont. Moi, j'ai été fasciné, tout à fait enthousiaste et je suis retourné heureux. Et donc, ça l'avait frappé et un beau jour, il m'a appelé dans son bureau au Muséum d'Histoire Naturelle et il m'a dit, voilà, j'ai décidé de faire de vous mon héritier scientifique, mon héritier intellectuel. Et c'était de manière très pudique et très brève, presque très rude, parce qu'il était un peu ému. Et puis, il a parlé tout de suite d'autre chose. Et nous sommes partis ensemble, c'est-à-dire qu'il a tout de suite mis en œuvre ce qu'il m'avait dit. Et nous sommes partis d'abord ensemble en Algérie, où on a fouillé dans le Constantinois, un site important de 1 800 000 ans, avec les tout premiers outils d'Afrique du Nord, tout premiers outils humains d'Afrique du Nord. Et puis ensuite, dès l'année suivante, ça c'était en 66, dès 67, nous sommes partis ensemble en Éthiopie. Et nous avons donc travaillé ensemble en 67, 68 et 69. Et Camille Rambourg était membre de l'Académie des sciences, n'oublions pas.
Encore un petit signe.
N'oublions pas de le dire, oui.
Effectivement.
De même que Jean Piveteau, dont on a parlé tout à l'heure.
Une dizaine d'années plus tard, on continue d'avancer dans le temps. Et là, vous êtes en Éthiopie avec deux collaborateurs, Donald Johansson et puis Maurice Taleb. Et alors là, vous faites une découverte. Alors, c'est une des découvertes les plus connues du grand public. Une femme, astralopithèque, que vous allez appeler Lucie.
Oui.
Alors, comment ça se passe, cette découverte?
D'abord, ce petit personnage n'est pas une humaine, mais une pré-humaine. On n'est pas encore dans le genre humain, en quelque sorte. Ce petit personnage a 3 200 000 ans. Et il se trouvait qu'à cette époque-là, je travaillais déjà depuis un certain nombre d'années dans le sud de l'Éthiopie. C'est-à-dire que je connaissais bien l'Éthiopie, et Maurice Taleb était venu me voir. Maurice Taleb faisait sa thèse sur le bassin du fleuve Awash. Et il avait découvert quelques ossements qu'il est venu me présenter, et là encore, comme c'était des dents d'éléphant, je lui ai dit entre 2 et 3 millions d'années, et tout de suite le diagnostic chronologique sur le morceau de dents. Et ça l'a encouragé, il a trouvé d'autres choses qu'il est venu à nouveau me montrer, et en 72... nous avons mis sur pied cette deuxième expédition d'Éthiopie, puisque la première que je conduisais dans le sud avait commencé en 1967. Et donc, dès 1973, c'est-à-dire dès l'année suivante, nous trouvions dans l'Afar éthiopien, c'est-à-dire dans l'est de l'Éthiopie, les premiers restes de préhumains de cette grande région de l'est. Et puis, en 1974, Lucie. Alors, l'intérêt de Lucie, c'est que les 52 ossements déterminables, parce qu'on en a trouvé beaucoup plus.
Oui, 52, oui.
Beaucoup plus. On a trouvé des centaines d'ossements, mais la plupart inutilisables. Mais les 52 ossements déterminables avaient permis pour la première fois de reconstituer, puisque la plupart des ossements sont pairs, donc quand on a le droit, on peut faire le gauche, avaient permis de reconstituer un préhumain beaucoup mieux qu'on ne l'avait fait auparavant. Et la reconstitution de ce préhumain permettait de dessiner la silhouette du préhumain en question.
Un préhumain bipède.
Oui, c'est ça. Qui était debout sur ses pattes postérieures, qui marchait sur ses deux pattes postérieures, qui n'en grimpait pas moins, ce qui était important à savoir, et qui n'avait encore qu'un petit cerveau de moins de 400 cm3. Donc c'était très intéressant d'avoir en quelque sorte un élément préhumain qui ressemblait un peu à ceux d'avant, c'est-à-dire aux primates de 8-10 millions d'années dont on descendait, et qui ressemblait déjà un petit peu à ceux d'après, c'est-à-dire aux humains qui allaient s'en suivre, et qui, eux, étaient des bipèdes exclusifs, ce que nous sommes encore aujourd'hui.
On ne monte plus aux arbres.
Oui, moi je ne monte plus, en tout cas.
Suite à Lucie, est-ce que vous avez pu découvrir d'autres australopithèques de ce type? Est-ce que c'était justement la porte qui s'ouvrait sur... Est-ce que c'était un site justement où il y avait d'autres ossements?
Bien sûr. Mais il faut redire que j'en avais déjà trouvé beaucoup dans le sud éthiopien. C'est-à-dire que Lucie venait au fil d'un certain nombre de découvertes déjà faites. Et dans l'Afar éthiopien, donc aux côtés de Lucie, bien sûr, on en a trouvé beaucoup. On parle toujours de Lucie parce que c'est le petit personnage symbolique de l'année 74, mais on en avait trouvé un petit peu avant et puis beaucoup après. Et les travaux ont repris à partir de 90-91, et il y en a eu encore d'autres depuis, mais ne serait-ce que dans cette période à laquelle je dirigeais cette expédition avec Taleb et Johansson, en 5 ans, on en a trouvé plusieurs centaines.
Ah, c'est par plusieurs centaines.
Ah oui, plusieurs centaines, oui.
Et alors, de ce fait, ces ossements, après, se retrouvent dans des musées, retrouvent en études?
Bien sûr. Alors, il faut d'abord les étudier, et pour cela, l'État dans lequel on travaille, en l'occurrence de l'Éthiopie, en général, tolère que nous les empruntions pour un certain temps. C'est un emprunt. Ah, mm-hmm. Oui. Après quoi, les ossements doivent retourner en Éthiopie, et ceci est évidemment très contrôlé. Et l'ensemble de ces collections se trouve actuellement au Musée national d'Addis Abeba, en coffre d'ailleurs. Ce sont les moulages de ces pièces qui sont présentés au public, mais les pièces originales sont dans des coffres, et à juste raison, parce que c'est quand même un peu fragile, un peu délicat, et les changements de température, les changements d'humidité peuvent les altérer au moins un petit peu, malgré leur fossilisation et leur minéralisation.
Yves Coppens, on marque une courte pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission. A tout de suite.
Merci.
Un événement.
Une association.
Une œuvre.
Une fondation.
Tout ce qui mérite votre attention est dans Point de Mire.
En direct ou en médiathèque.
Sur Canal Académie.
Retour à notre habit vert en compagnie d'Yves Coppens. Yves Coppens, paléontologue, académicien des sciences. Alors Yves Coppens, on vient de terminer sur l'épisode de Lucie, très connu du grand public. C'était donc en 1974. Presque 7 ans plus tard, Yves Coppens, en 81 plus exactement, vous proposez une théorie que vous réfuterez 20 ans plus tard. C'est celle de List Size Theory. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consistait, cette théorie ?
Oui, bien sûr. Les paléontologues, de même que les zoologues et les botanistes, savent très bien que l'isolement d'une espèce fait souvent le lit, si j'ose dire, d'une nouvelle espèce. Je veux dire par là que lorsqu'une espèce est séparée en deux, l'isolement d'une partie de la population entraîne une dérive génétique, et cette dérive génétique est souvent à l'origine d'une spéciation, c'est-à-dire la formation d'une nouvelle espèce. Alors, fort de cette notion que je connaissais bien, et me trouvant face un jour à la carte d'Afrique, j'ai été frappé par le fait que nous étions à la fois extrêmement proches génétiquement et phylogénétiquement des grands singes d'Afrique, notamment des chimpanzés et des bonobos, et nous étions en même temps, nous les ancêtres de l'homme et les humains, dans des endroits qui n'étaient pas les endroits fréquentés par les cousins. Devant la carte d'Afrique, il y avait à l'ouest, dans cette forêt, en tout cas actuellement forêt se trouvant au cœur du golfe de Guinée, les petits cousins chimpanzés et bonobos, et aucun reste d'ancêtre de l'homme. Et de l'autre côté, à l'est, le long de l'océan Indien, tous les ancêtres, tous les plus anciens ancêtres de l'homme que l'on connaissait, et pas du tout de reste d'ancêtres de chimpanzés ou de chimpanzés contemporains.
Vous voulez dire qu'en fait, à la même période, il y avait deux évolutions différentes.
C'est ça, à partir du moment où...
Une fourche, en fait.
Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les deux cousins étaient séparés par quelque chose, étaient séparés dans l'espace, alors qu'ils se développaient les uns et les autres dans le temps... Ça voulait dire qu'il y avait eu un ancêtre commun quelque part dans ces régions-là, et que cet ancêtre commun avait donné naissance à deux frères qui étaient devenus à la longue deux cousins, les uns se développant à l'est, les autres se développant à l'ouest. Et en regardant de près la carte d'Afrique, il était simple de voir que entre les uns et les autres, il y avait une grande balafre qui s'appelait la Rift Valley, mais surtout une grande balafre qui était dominée à l'ouest par des montagnes très hautes, de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mètres parfois. Et ces montagnes avaient forcément entraîné des changements climatiques et par suite des changements écologiques et par suite des changements faunistiques. Et comme cette grande faille s'était essentiellement ouverte, bien que son histoire ait été beaucoup plus ancienne, se soit essentiellement ouverte autour de 8 millions d'années, ça coïncidait tout à fait avec le début de l'apparition de ces préhumains et du développement de la lignée préhumain-humain. Donc j'ai émis une hypothèse simpliste, que je savais bien être simpliste, je l'ai dit chaque fois.
Mais qui était viable à ce moment-là ?
Oui, c'est
ça. Qui était plausible ? Est-ce que les autres scientifiques partageaient votre avis, ou est-ce que déjà c'était très partagé à ce moment-là sur cette théorie ?
J'ai été très surpris de voir que, contrairement à ce qui se passe d'habitude, il y avait eu peu de critiques Et ça avait été volontiers et facilement admis parce que c'était une explication simple et que ça mettait chacun à sa place, les préhumains à l'est dans cette espèce d'isola qu'était l'Afrique orientale, limitée par à la fois la Rift Valley et sa montagne et puis l'océan Indien, et les cousins chimpanzés à l'ouest, entre la même Rift Valley et l'océan Atlantique.
Donc on comprend bien un isolement géographique avec comme barrière des montagnes, un rift. Mmh. Et puis, en 2003, la théorie tombe à plat puisqu'il y a une découverte qui va être faite en 2003.
Oui, ça s'est fait un petit peu avant. Il se trouve que Michel Brunet était parti dès 1984 pour confirmer ou infirmer mon hypothèse, en bavardant avec moi au préalable d'ailleurs, parce qu'on est très amis, collègues et amis. Et après avoir travaillé au Cameroun, au Niger, au Nigeria, il est arrivé au Tchad. Et au Tchad, il s'est rendu sur les terrains, sur les sites que j'avais déjà explorés, donc 30 ans avant quand même. Et il a eu dès 1994 la chance de découvrir un morceau de préhumain qu'il a appelé Abel. Et donc, en 2001, en effet, la chance de découvrir un autre préhumain qu'il a appelé Toumaï. Il se trouve qu'Abel avait 3 500 000 ans, et Toumaï en avait 7 millions. Donc, évidemment, ça allait à l'encontre de ma proposition, en tout cas de ma proposition dans les termes simples que j'avais
sur le plan géographique, puisqu'on trouvait des préhumains aussi bien à l'est qu'à l'ouest.
Sur le plan géographique. Alors, je dois dire que Michel Brunet a été d'une grande courtoisie, ce qui n'est pas forcément courant dans le monde scientifique, hein, où l'ego est quand même très important. Et il se trouve que j'ai donc co-signé la naissance d'Abel, Australopithecus Barel-Ghazali, et la naissance de Toumaï, Sahelanthropus tchadensis. Donc je suis aussi copapa des deux petits tchadiens avec Michel Brunet en tête, bien sûr.
Ce qui, par la même occasion, mettait fin à cette théorie géographique, on va dire.
C'est ça. Ce qui, par la même occasion, mettait fin, en tout cas, à la compréhension de la Rift Valley de cette manière si simple. La Rift Valley a sûrement joué un rôle, parce que ça ne peut pas être innocent d'avoir comme ça, au milieu de la place, cette espèce
une séparation aussi nette des préhumains et de grands singes
oui,
de l'un et de l'autre.
Et personne. Puis cette grande balafre quand même de la Terre, qui fait 6000 kilomètres. J'ai rencontré un jour un astronaute, un cosmonaute américain, qui est allé sur la Lune. Je l'ai rencontré en Suisse un beau jour. Et il m'a dit, tu sais, ta Rift, moi je l'ai vu. C'est-à-dire que d'en haut, évidemment, 6000 kilomètres sur une Terre dont on ne voit que 20 000 à la fois, ça se voit, donc c'est quelque chose d'important. Mais que la Rift ait quelquefois été barrière, quelquefois été filtre, d'autres fois été passoire, c'est de cela dont il faudra désormais tenir compte. Alors je voudrais dire quand même une chose, c'est que j'ai aussi proposé une autre hypothèse, parce que vous savez, le travail du paléontologue, c'est d'abord d'aller chercher les fossiles, ensuite de les étudier, et puis au bout de l'étude, de les interpréter, et du coup de faire entrer leur interprétation dans la compréhension générale de l'histoire, l'histoire tout court et l'histoire de l'homme en particulier. Et j'ai proposé depuis longtemps, depuis 75 cette fois, que l'émergence de l'homme, ce qui n'est pas rien, était due à un changement climatique et que...
Alors voilà, c'était là où je voulais en venir.
Ah bon. Si l'homme était apparu, c'est parce qu'il avait été contraint de s'adapter à ce changement climatique. Et ça tient bon, c'est pour ça.
Oui, voilà.
C'est pour ça que je me défends.
Bien sûr. Alors, au départ, on a l'autre théorie qui est darwinienne, à savoir, on a quelques personnages qui vont muter, mais ce ne sont que quelques personnages qui, au bout d'un moment, vont construire une espèce. Et vous, vous dites, non, en fait, ça n'a rien à voir. Simplement, s'il fait chaud ou s'il fait froid, l'homme va évoluer différemment et il va s'adapter.
Oui, alors, je ne dis pas ça à ce point-là quand même, mais ce que je dis en effet, c'est que le changement climatique que j'ai étudié, que j'ai vécu dans le sud éthiopien entre 3 millions d'années et 2 millions d'années, je l'ai suivi au fil de la transformation au moins d'une centaine d'espèces. Or, les 100 espèces en question se transforment toutes, s'adaptent toutes dans le bon sens, c'est-à-dire l'adaptation à un milieu qui change, à une alimentation qui devient essentiellement une alimentation d'herbes, au lieu d'être une alimentation de feuilles. Et l'homme apparaît là-dedans, ayant moins de végétaux à consommer. Lucie était végétarienne. L'homme est contraint de s'adapter à une nourriture d'omnivore. C'est à partir de ce moment-là qu'il se met à manger de la viande. Et lui aussi, donc, doit s'adapter.
Ces contraintes rendent le préhumain, ou l'humain en tout cas, intelligent. En fait, il va construire et il va former son intelligence.
C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, en effet, que de même que le cheval s'adapte en changeant sa patte et l'éléphant en changeant sa dent, l'humain va se transformer, va s'adapter en changeant sa denture, comme je vous le disais, mais en changeant aussi sa tête. Son cerveau va devenir beaucoup plus important, puissant, efficace, etc. Et c'est l'apparition, du coup, l'émergence du genre humain et de la conscience
qui
l'accompagne. Ah oui, absolument. À partir de ce moment-là, il sait qu'il sait. Alors évidemment, c'est un petit peu choquant de dire que l'homme est né d'un changement climatique, mais je le dis, je l'affirme, je le confirme. Oui, je confirme. Alors ça m'intéresse beaucoup, cette histoire, parce que Darwin, en effet, disait que tout était aléatoire. Gould, récemment, disait que tout était contingent, ce qui veut dire à peu près la même chose. Et les généticiens, les molécularistes, disent aussi que tout est aléatoire et tout est une question de hasard. Or, moi, je suis frappé sur le terrain, mais il faut m'écouter aussi. Je suis frappé du fait que tous les animaux que j'ai sous le nez se transforment dans le bon sens. Alors, si ces bêtes se transforment dans le bon sens, c'est qu'elles ont eu la bonne mutation au bon moment, ce qui va...
C'est beaucoup de hasard.
Oui, c'est ça, ce qui va un petit peu à l'encontre du hasard tel qu'on le conçoit. Et j'ai lu récemment la proposition de Christian de Duve, qui est un Nobel de médecine belge, qui disait que pour lui, les mutations étaient en effet aléatoires, ce qui va dans le sens des généticiens, mais restaient en sommeil dans la cellule. C'est-à-dire que finalement, au moment où on en a besoin, elles peuvent très bien être là, et du coup être réactivé pour que la transformation, l'adaptation se fasse dans le bon sens. Ce qui me plaît beaucoup parce que ça va bien avec mes observations de terrain qui sont aussi importantes que le côté aléatoire que les généticiens voient sur leur microscope.
Alors justement, lors de votre leçon de clôture au Collège de France, je vais vous citer justement sur ce sujet-là. Vous dites « Il y a 30 ans, on traitait avec une vraie condescendance ma proposition d'associer l'anatomie nouvelle du genre homo, c'est-à-dire ni plus ni moins notre origine et le changement climatique qui lui était contemporain. » Enfin, en tout cas, vous disiez « Il y a 30 ans, cette théorie que vous venez de nous expliquer, personne n'y croyait, on acquiesçait gentiment et puis, bon, derrière, on continuait ses propres recherches. » Là, actuellement, vous pensez que les choses ont un peu évolué de ce côté-là?
Ah oui,
vous
tout
pensez
à fait.
Que depuis 30 ans, donc, on a une autre ouverture d'esprit?
Ah, tout à fait. J'ai eu tort d'ailleurs, mais je n'ai pas réuni, aligné, catalogué tous les colloques qui ensuite ont eu lieu sur l'évolution de l'homme et l'évolution du climat. Mais ensuite, ça a fleuri, c'est-à-dire que c'est devenu presque une mode. Et maintenant, c'est bien entré dans la connaissance en général. Quelquefois d'ailleurs, ce qui n'a pas trop d'importance, un petit peu, quelquefois c'est un peu rageant, mais sous d'autres signatures. Vous savez, quand on fait des découvertes importantes, bien sûr, il y a des emprunts qui se font à travers le monde. Ça, c'est le comportement habituel des primates, mais non, des scientifiques. Mais maintenant, c'est presque une vérité acquise.
Mm-hmm. C'est ça, oui. Est-ce que vous auriez une autre théorie, une autre hypothèse dont vous voudriez nous faire part?
Eh bien, écoutez, je reviendrai à votre antenne, mais ça continue forcément à bouillir.
Alors, on marque une seconde pause, Yves Coppin, si on se retrouve tout de suite après pour évoquer cette fois-ci votre vie à l'Académie. À tout de suite.
Merci.
Chaque lundi, les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques se réunissent dans la salle des séances de l'Institut de France. Ils écoutent une communication sur un thème choisi.
Pour les séances de l'année 2006, le président de l'Académie, Monsieur André Damien, a choisi le thème de la justice.
Sur Canal Académie en séance, vous permettra d'entendre, entre autres intervenants, Henri Amouroux sur la justice du peuple en 1944.
Maître Jacques Vergès, la passion de défendre.
La justice, thème de réflexion de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2006.
C'est chaque semaine dans En séance sur Canal Académie.
Retour à notre habit vert en compagnie d'Yves Coppens, paléontologue, académicien. Et justement, Yves Coppens, cette fois-ci, nous allons aborder cette dernière partie, le fait que vous soyez académicien des sciences dans la section sciences de l'univers. Vous entrez tout d'abord comme correspondant en 1983 et puis ça sera en 85 que vous serez titularisé. Alors, pour entrer à l'Académie des sciences, il faut faire un discours, une conférence pour pouvoir peut-être faire part de ses compétences à ses pairs. Alors, comment ça se passe pour vous, Yves Coppens?
Ce n'est pas systématique, hein. On n'est pas obligé de venir faire une conférence, mais il est vrai que c'est bien de se présenter devant les académiciens pour montrer un petit peu à quoi on ressemble et à quoi on pense. Et il s'est trouvé que le doyen Lazorte, qui était membre de l'Académie des sciences et qui est spécialiste du système nerveux central, m'avait proposé en 81, ou en 80 peut-être, en tout cas ça a été publié en 81, de faire une conférence sur le cerveau des hommes fossiles. J'ai trouvé ça formidable, j'ai trouvé ça une superbe occasion de me montrer devant les gens que j'espérais devenir mes confrères, dont j'espérais devenir le confrère en tout cas. Et j'ai donc préparé une conférence très, enfin j'espère, très solide, très musclée, comme je vous l'ai déjà dit. Et j'ai été heureux, bien sûr, hein, et le doyen Lazorte l'a été aussi, m'a-t-il dit, mais en même temps un petit peu déçu, parce que je n'avais pas réalisé que l'Académie des sciences est faite, bien sûr, de scientifiques de tous horizons, c'est-à-dire que ça va des mathématiques jusqu'à la médecine, dans la mesure où on peut...
Échelonner,
c'est ça, les sciences comme cela, avec les géologues et puis les gens, les astronomes, les astrophysiciens, et puis les physiciens, les chimistes, les naturalistes en général, les biologistes, comme vous dites, et puis les médecins, etc.
Tout ça pour dire donc que votre discours ne pouvait pas forcément être entendu de tout le monde.
Mon discours a été entendu, a été compris, a été suivi avec intérêt par certains, mais pas par tout le monde, et j'en étais un petit peu triste, parce que je me suis dit, oh là là, il y a des voix qui m'échappent. Mais c'était pas une campagne électorale, mais j'étais fier de montrer à la fois l'intérêt de la paléontologie, tout de même, paléontologie humaine. Et puis...
À vouloir montrer, en fait, que vous saviez plein de choses, oui. Ça a fait l'effet inverse pour certains, c'est-à-dire qu'en fait...
Oui, enfin, je sais pas si ça a fait l'effet inverse, mais j'ai bien vu que pour intéresser tout le monde, il fallait avoir un discours plus accessible. Et ça ne m'a pas empêché d'être...
Ça, c'est pour la petite anecdote, pour dire que quand on... Même entre scientifiques, des fois, il peut y avoir une incompréhension.
Oui, ça justifie aussi ce que l'on appelle la vulgarisation. Ça veut dire qu'on est compris par ses pairs lorsqu'on a un langage très technique, mais uniquement en très petit comité. Dès que le comité s'élargit, il faut aussi élargir le discours et rendre le vocabulaire plus compréhensible, et bien sûr, à plus forte raison, lorsque le public devient plus large, et à encore plus forte raison, lorsqu'il devient les millions de téléspectateurs que vous connaissez, il ne faut pas hésiter à devenir simple, simple, extrêmement simple, et quand on est extrêmement simple, on est forcément un petit peu faux, d'où la difficulté de populariser, évidemment.
Et vous êtes partisan, en tout cas, de pouvoir rendre le plus accessible possible vos travaux, vos recherches?
Les deux. Je continue, bien sûr, à parler à mes collègues, heureusement, hein, et à avoir des participations à des colloques, à des congrès, des symposiums, tout ce que vous voulez, tout à fait professionnel, ce qui n'empêche pas d'essayer d'intéresser, en effet, le public, les publics et le plus large public possible à ces disciplines qui sont tellement, tellement intéressantes. Enfin, moi, je suis suffisamment enthousiaste pour essayer de faire passer un petit bout de cette flamme qui m'habite et me hante.
Alors, vous étiez déjà connu de l'Académie des sciences, puisque vous aviez déjà reçu bien avant des prix. En 1963, le prix Edmond Hébert, en 1969, le prix André Bonnet, et puis en 1974, le grand prix Jaffé de l'Académie des sciences.
Oui, j'ai en effet eu la chance d'avoir été couronné à trois reprises, grâce à des rapports aimables de certains de mes vieux patrons, en fait. Le premier, je me souviens, c'était sur un rapport de Théodore Monod. Le troisième, c'était sur un rapport de Jacques Millot, qui était directeur du Musée de l'Homme et qui avait été directeur du laboratoire d'anatomie comparée du muséum et qui avait été le premier à me fournir un cadavre d'éléphant pour que je puisse voir un petit peu comment était la musculature et mieux comprendre le squelette en fonction des muscles.
Alors, j'avais peut-être aussi oublié de préciser, je ne sais pas si je l'ai dit, mais vous avez été aussi directeur du Musée de l'Homme pendant 3 ans. Donc, parallèlement, vous continuez vos recherches, vous êtes directeur donc pendant 3 ans jusqu'à 83. En 83, vous passez correspondant. Vous entrez par la même occasion en 83 au Collège de France. Donc, c'est une activité quand même assez... vous avez une vie trépidante. Vous sautez d'institut en institut.
Trop pidante.
Est-ce que maintenant que vous êtes académicien, vous continuez donc vos recherches, en tout cas avoir des élèves, des étudiants qui vous fournissent des rapports, est-ce que maintenant quand même la vie est un peu plus calme ?
Non, pas du tout, ça serait dommage. Non, j'ai encore une thèse là sur les bras, si j'ose dire, mais ça me réjouit.
Ça vous fait plaisir.
Sur les éléphants. Oui, je dois vous dire que l'académie m'a beaucoup intéressé à différents égards. L'académie m'a intéressé parce que, contrairement à d'autres académies à travers le monde, c'est une académie qui continue à se réunir entre toutes les disciplines. Et les séances collectives comme ça sont très intéressantes et très instructives parce que, même quand on ne comprend pas tout, ce qui est bien sûr le cas souvent, on sait un petit peu ce qui se passe en physique, ce qui se passe en maths, ce qui se passe en chimie, ce qui se passe en biologie.
Une ouverture d'esprit sur toutes les sciences.
Ah oui, c'est formidable. Mais c'est formidable. Autrement, on reste dans sa petite tour d'ivoire et c'est un peu dommage. Par ailleurs, je suis aussi très frappé par le fait que l'Académie s'efforce sans cesse de se tenir au courant des percées nouvelles, des sciences nouvelles. Et en ce sens, donc, n'est jamais stabilisée dans une image, mais progresse, change d'allure, se renouvelle, se rénove, se met au goût scientifique du jour et c'est extrêmement important, bien sûr, pour sa vie, sa survie, son activité et sa fiabilité. Et par ailleurs, moi, je me suis toujours intéressé, dès le début, à son aspect éditorial, à sa fonction éditoriale.
Vous êtes très impliqué, je crois, dans
cette
partie-là. Hein.
C'est ça, je continue à m'occuper de la revue Palais Vol, qui est la revue, les comptes rendus, les fameuses notes d'antan, la publication des notes en sciences paléontologiques. Et ça, c'est une partie de mon activité académique qui, j'espère, est importante. Enfin, en tout cas, faire comme ça l'intermédiaire et se porter garant des travaux des jeunes gens qui sont très actifs sur le terrain, en laboratoire, c'est un bonheur et un honneur.
Alors la boucle est bouclée puisque votre père rédigeait des notes pour l'Académie des sciences. Vous, quelques années plus tard, vous entrez à l'Académie des sciences et c'est lui, je crois, qui... Donc le jour où vous recevez l'épée, qui vous fait donc membre à part entière de cette Académie, vous recevez également l'insigne de la Légion d'honneur. Donc c'est votre père qui vous remet ceci donc le même jour. Quel effet ça fait et comment ça s'est passé ?
C'est Georges Millot, qui était un géologue de Strasbourg, qui m'a remis l'épée. Et c'est en effet mon père qui m'a remis l'insigne de la Légion d'honneur. Ben pour moi, c'était extrêmement agréable sur le plan personnel, professionnel, mais aussi affectif, bien sûr. Et c'était un grand jour. Et dans ce grand amphi de la Sorbonne, la remise de l'épée avait été aussi un grand moment. Et lorsque je l'ai montré à Georges Millot, ça avait frappé les esprits. Georges Millot s'est saisi de l'épée et par une maladresse, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'épée est tombée, mais ne s'est pas brisée pour autant. Donc j'avais mon épée telle celle du roi Arthur, là, ramassée sur le sol du grand amphi de la Sorbonne. Et cette épée était faite d'un certain nombre d'éléments. Et
voilà, puisque chaque épée est personnalisée, il faut peut-être le repréciser.
C'est ça.
Elle est personnalisée, il y a 4 ou 5 éléments, je ne sais pas si le nombre est limité. Mais
Non, mais elle porte en effet les symboles de sa spécialité. Alors, cette épée, en l'occurrence, avait d'une part la figuration d'un préhumain, ce qu'on appelait à l'époque un australopithèque, mais on s'est aperçu depuis qu'il y avait d'autres préhumains que celui-là. Lucie, par exemple, est un australopithèque. Et puis, il y avait des éléments tels un petit bout de granit parce que je suis né en Bretagne, un petit bout d'ivoire parce que les mammouths m'ont toujours été très chers. Et l'épée, par ailleurs, avait une très belle poignée qui était faite pour figurer, pour illustrer la queue de la comète de Halley, puisque mon entrée à l'Académie des sciences correspondait au passage de la comète. Vous voyez comme c'est beau, comme, donc, comme
oui,
symbole.
Comme métaphore. Et donc ces quatre éléments représentaient, résumaient en quelque sorte
un peu
vos recherches, vos travaux.
Alors je dois dire que l'artiste était Michel Bourbon, qui est un sculpteur et un peintre en même temps, et que je connaissais bien puisqu'il avait séjourné longtemps dans mon propre laboratoire.
Alors il y avait aussi des amis bretons à vous qui étaient venus, je crois, avec des outils particuliers.
Oui, j'avais voulu que la préhistoire soit présente concrètement, et je leur avais demandé de venir avec la plus belle pièce du musée de Vannes. Mais dans le musée de Vannes, il y a notamment des haches en pierre polie, dans ces pierres vertes telles la jadéite, qui sont des pierres précieuses. Et la hache en question avait, celle que j'avais demandé que l'on m'apporte, la plus belle, avait une bonne trentaine, peut-être quarantaine de centimètres de long, c'est-à-dire qu'elle était immense. Et elle était si belle et si parfaite de profil qu'elle n'avait certainement jamais servi et elle n'était sans doute pas destinée à servir. Et je pensais que ça pouvait être au néolithique, c'est-à-dire il y a 5 à 7 000 années, l'équivalent à l'époque de l'épée d'académicien d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu le bonheur de la brandir.
L'épée du néolithique.
Oui, du haut de ma chaire provisoire de la Sorbonne à ce public. Enfin, la salle représente quand même 2000 personnes. Hein, donc, ils ont eu le plaisir de voir cette pièce somptueuse qui était venue avec deux gardes du corps. Il y avait deux amis, dont le conservateur en chef du musée archéologique de la Société Polymathique du Morbihan à Vannes, qui était venu accompagner la pièce, accompagner la hache, ou la hache l'avait accompagnée, je ne sais pas. En tout cas, il y avait deux gardes du corps pour cette pièce qui normalement ne sort jamais des vitrines des musées, quoi. C'était une faveur.
Eh bien, merci professeur Yves Coppens de nous avoir accordé donc une heure pendant laquelle nous avons pu donc découvrir votre histoire, et non pas l'histoire au néolithique, mais votre histoire à vous. Pour en savoir plus sur l'évolution de l'homme et les changements climatiques, le dernier livre d'Yves Coppens est paru il y a peu de temps aux éditions Fayard, intitulé « Histoire de l'homme et changement climatique ». Il reprend, je crois, votre leçon de clôture.
Absolument, oui.
Au Collège de France. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Merci professeur Yves Coppens, encore une fois, d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Au revoir.
Merci.